Vous écoutez On lit pour vous.
La collection Wings, la grande histoire derrière de petits biscuits chinois. Un texte d'Émilie Côté paru le 17 avril 2026 dans la presse. Les fameux sachets de sauce soya. Le mythique sofa brun de la réception et le tableau de la Grande Muraille de Chine. Des photos de famille, des emballages d'une autre époque, des allumettes. Le lieu a été dévoilé seulement à quelques heures d'avis et nous devons le garder secret. Mais les milliers d'objets et de souvenirs de l'ancienne usine Wing se trouvent en sécurité dans la réserve du MEM, le Centre des mémoires montréalaises, qui en a fait l'acquisition. C'est une collection extraordinaire, souligne la conservatrice Marianne Gagnon. De loin la plus importante acquise par le MEM. L'entreprise de la famille Lee produisait les iconiques biscuits de fortune de la métropole, soit les seuls bilingues sur la planète. C'est le résultat d'un sauvetage patrimonial citoyen exemplaire, a ajouté la conservatrice. Et le capitaine du sauvetage est Jean-Philippe Riopel. Les larmes qui coulaient sur ses joues lors de la conférence de presse témoignaient de tout le travail mené ces 5 dernières années pour classer et préserver les objets qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la collection Wings. Comme son défunt père policier avec qui il fréquentait beaucoup le quartier chinois, Jean-Philippe Riopel est un ami de la famille Lee qui a fermé en décembre 2025 l'usine où on produisait chaque semaine des pâtes, des nouilles, dont les fameuses Yat Cha Main, et 100 000 biscuits au goût vanillé avec un petit message intriguant inséré à l'intérieur. Des heures et des heures de bénévolat. Un jour, Jean-Philippe Riopel, qui est guide touristique et vit dans le quartier chinois, a demandé à Gilbert Lee ce qu'il allait faire de toutes les boîtes accumulées au fil du temps dans les 2 édifices patrimoniaux de l'entreprise située rue Côté, vendue en 2021. Quand le muséologue de formation a appris que tout pourrait se retrouver à la poubelle, il s'est mis à identifier et à répertorier les objets d'intérêt patrimonial. Lui et d'autres défenseurs du patrimoine, dont Francine Clément et Bernard Vallée, ont créé le groupe d'action muséologique Objets de mémoire. Des bénévoles et des étudiants en muséologie leur sont venus en aide pour le tri et la documentation. En 2023, ils ont célébré une première victoire avec un quadrilatère central du quartier chinois classé patrimonial. Puis voilà que le MEM vient d'acquérir la collection Wings. « C'est une belle histoire montréalaise », dit le muséologue Jean-Philippe Riopel. « C'est une collection qui met pour la première fois en valeur une partie importante de notre histoire. » « Une page manquante », a-t-il ajouté dans son allocution, soulignant, comme d'autres intervenants, que l'apport de la communauté sino-montréalaise est souvent trop marginalisé dans les livres d'histoire. La collection sera conservée dans des conditions professionnelles et durables, conformes aux normes muséales, a assuré Andréane Moreau, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal. La collection fait rayonner la mémoire d'une famille, d'une entreprise, d'une communauté, d'un quartier. Elle fait partie de notre mémoire collective. 130 ans d'histoire. Si l'usine des nouilles Wing Limitée existait depuis 60 ans, l'entreprise familiale qui importait initialement des produits de Chine a été fondée en 1897. Arthur Lee s'est tourné vers la production alimentaire 50 ans plus tard. Pour l'anecdote, Arthur Lee composait lui-même les courts messages prédisant l'avenir, cachés dans les biscuits. Son fils Garnett nous le confirme alors qu'il regarde un cahier de devoirs de ses 8 ans conservé par son père faisant partie de la collection. « C'est incroyable. Mon père gardait et documentait tout. » Jean-Philippe a sorti des choses dont nous ignorions l'existence. Il y avait même un article de la Gazette quand la reine Élisabeth II a été couronnée. Heureusement que tous ces artefacts ont été sauvés de l'oubli. L'engagement citoyen en matière de patrimoine peut faire toute la différence, a tenu à souligner Catherine Charlebois du même. Nous n'avions pas conscience de toute la profondeur de l'histoire de notre famille à Montréal, s'émeut Garnett Lee, dont l'arrière-grand-père a participé à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique avant de fonder une buanderie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fermer l'usine du quartier chinois n'a pas été une décision facile, et les messages d'affection pullulent depuis. Mais c'est ce que le père de Garnett voulait pour ses enfants, avoir le choix de son destin. Vivement une exposition d'envergure sur la collection Wings. C'était la collection Wings, la grande histoire derrière de petits biscuits chinois. Un texte d'Émilie Côté, paru le 17 avril 2026 dans la presse.
Les remèdes contre la réunionite. Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 29 avril 2026 dans la presse. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un se plaindre d'un trop-plein de réunions inutiles? Pourtant, seulement 23 % des travailleurs québécois estiment participer à trop de réunions, révèle le plus récent sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, CRHA. À l'heure où les entreprises veulent augmenter leur productivité, les réunions doivent être plus que jamais bien réfléchies. Le coup de sonde est clair. Les professionnels dans les bureaux passent beaucoup de temps à brainstormer, à écouter, ou à faire autre chose pendant que leurs collègues discutent en réunion. Ils sont 40 % à l'avouer. Un phénomène qui fragmente l'attention, soutient l'ordre des CRHA et qui peut contribuer à diminuer la productivité des travailleurs. C'est beaucoup de temps qu'on passe collectivement dans les milieux de travail en rencontre, et rares sont les organisations qui accordent beaucoup d'attention à la pertinence des réunions et les mesures, observe Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des CRHA. L'Ordre a voulu aller au-delà de l'anecdote de la réunionite citée dans les organisations depuis des décennies, mais plus encore depuis la pandémie. Depuis le télétravail, on a beaucoup entendu les gens dire qu'ils avaient l'impression d'être plus en réunion, et des données américaines indiquent un nombre important d'heures passées en réunion. On voulait donc l'évaluer ici, soutient la directrice générale. Le sondage, mené par la firme Léger en mars dernier, a sondé 702 personnes en emploi, dont 28 % de gestionnaires. Bien que de nombreux travailleurs se plaignent à voix haute qu'ils sont toujours en réunion, le sondage révèle que seule une minorité d'entre eux, 23 % estime participer à trop de réunions, et une large majorité juge leur nombre adéquat, 71 %. Cependant, la perception des réunions est relativement partagée. 55 % estiment qu'elles s'avèrent un outil utile ou un levier essentiel au bon fonctionnement du travail, indiquent les résultats de l'étude, contre 43 % qui les considèrent comme un mal nécessaire ou une perte de temps. Dans les organisations, beaucoup de temps est consacré à l'analyse de chaque activité, statistiques à l'appui, remarque Manon Poirier. On mesure chaque appel du service à la clientèle, cite-t-elle en exemple. Or, les réunions font rarement l'objet d'un regard si attentif et assidu, soutient-elle, alors que ce temps a une valeur économique. On ne dit pas que les réunions ne sont pas importantes, précise-t-elle. C'est important comme moyen de communication pour partager de l'information et s'assurer de l'alignement au sein de l'organisation. Mais ça devrait être une préoccupation organisationnelle dans une volonté de réduire la charge de travail, d'accompagner nos employés dans l'efficience, car c'est une composante d'affaires. Ce n'est pas un à côté. Ça fait partie de nos opérations. Puis, on devrait les mesurer et former nos gens qui les animent de la même façon qu'on le fait pour l'ensemble du reste des activités, assure-t-elle. Pensez à la pertinence de vos invitations. Les organisations doivent réfléchir à la pertinence des réunions pour chaque employé, car bon nombre d'entre eux, 41% selon le sondage, ne sont pas à l'aise de refuser une invitation à une réunion qu'ils jugent non pertinente. Avec tous les outils technologiques disponibles, l'organisation pourrait décider d'envoyer simplement un petit résumé clair avec quelques points importants de la dite réunion, avec l'option de cocher une case « J'ai bien lu » pour que les gestionnaires s'assurent que l'employé a bien pris connaissance de l'information, suggère l'ordre. Une majorité de gestionnaires, 55%, affirme d'ailleurs utiliser occasionnellement ou régulièrement des outils d'intelligence artificielle pour retranscrire et faire un résumé des réunions. Comment accélérer la productivité en réunion? En la tenant après que les employés ont terminé leur travail le plus pressant pour qu'ils soient concentrés sur le sujet de la discussion. Préparer un ordre du jour communiqué à l'avance aux participants est aussi une bonne idée afin de faciliter la discussion ou la prise de décision lors de la réunion. Ne sous-estimez pas la qualité de l'animation. La présidente de l'ordre conseille de miser sur le développement des capacités d'animation avec des techniques qui rendront les rencontres plus efficaces. On a l'impression que tout le monde est capable d'animer une réunion, mais animer, ce n'est pas juste donner le droit de parole, prévient Manon Poirier. Il faut réfléchir à l'ordre des sujets abordés, anticiper la durée, gérer les employés qui prennent trop de place, faire parler ceux qui ne prennent jamais la parole et résumer les idées. Les gens vont se sentir plus interpellés et avoir le sentiment d'avoir contribué. Quand les gens s'expriment, ils se sentent plus engagés et trouvent que la réunion est meilleure. C'est un bel acquis pour une organisation d'optimiser la perception de la valeur ajoutée des réunions, conclut-elle. C'était Les remèdes contre la réunionite. Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 29 avril 2026 dans La Presse.
Le culte américain du Gas Price, un texte de Boucard Diouf, paru le 11 avril 2026 dans La Presse. Dans un passé pas très lointain, l'impérialisme américain se drapait dans de bons sentiments pour justifier sa convoitise agressive du pétrole au Moyen-Orient. Maintenant, au Venezuela comme en Iran, Donald avance à visière levée. Il a exprimé récemment son désir de mettre la main sur les hydrocarbures iraniens. Le pétrole est souvent une richesse porteuse de malédictions. Dans le monde arabo-musulman, il explique en grande partie l'invasion du Koweït par l'Irak, l'invasion de l'Irak par George Bush, l'intervention en Libye initiée par la France et la guerre civile en Syrie. Le pétrole, c'est encore l'alliance entre Roosevelt et le prince Ibn Saud qui fait que l'Arabie saoudite reste impunément l'une des nations les plus liberticides de la planète avec la bénédiction américaine. Pour son pays, qui a accepté de partager sa richesse avec les États-Unis en échange d'une certaine protection militaire, le pétrole a fait plus de bien que de mal. Pour d'autres nations, les réserves d'hydrocarbures peuvent devenir un cadeau empoisonné. Il alimente souvent des régimes autoritaires, décuple la corruption et concentre la richesse entre les mains de quelques privilégiés. Cette ressource expose aussi le pays qui en est dépositaire à une possible prédation par des plus forts. Avant 1950, le pétrole iranien était exploité par un consortium qui s'appelait l'Anglo-Iranian Oil Company. Ici, ce sont les Britanniques qui s'emparaient de la part du lion, laissant aux Iraniens des miettes en guise de redevance. Aussi, lorsque le premier ministre Mohamed Mossadegh, qui jugeait son pays injustement traité, a décidé de nationaliser le pétrole en 1951, le Royaume-Uni n'a pas tardé à répliquer. Avec la complicité de la CIA, il a imposé un embargo à l'Iran et a orchestré le coup d'État qui allait renverser Mossadegh en août 1953. L'arrivée au pouvoir du Shah, qu'il pouvait télécommander, sera applaudie à Londres et à Washington car le robinet pétrolier iranien pouvait recommencer à couler pour les intérêts étrangers. En 1979, le Shah sera emporté par une révolution menée par Ruhollah Khomeini et les Occidentaux seront de nouveau éloignés du pétrole iranien. Après cette révolution, la crise des otages cristallisera l'adversité entre les États-Unis et l'Iran. Une animosité qui dure encore, renforcée évidemment par d'autres enjeux géopolitiques. Loin de moi l'idée de détailler les nombreuses sources de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui, avec le temps, sont devenues multidirectionnelles. Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'au-delà du caractère assassin du régime iranien, la convoitise des gigantesques réserves de pétrole n'est jamais loin de cet acharnement américain sur la nation perse. Récemment, à plusieurs reprises, le président Trump a exprimé son désir de mettre la main sur le pétrole iranien. On l'a entendu dire « Pour être honnête, ce que je préférerais, c'est prendre le pétrole en Iran. Mais il y a des gens stupides aux États-Unis qui se demandent pourquoi je devrais faire ça. Ce sont vraiment des gens stupides. » Le Trumpiste adore les hydrocarbures. Aussi, pendant que les bombes qui tombent font beaucoup de drames familiaux et détruisent des patrimoines historiques de l'humanité, une grande partie de l'électorat américain ne pense qu'à une chose, le prix de l'essence. Bien plus que l'éducation, l'environnement, les droits de la personne, la santé mentale du président, la corruption à ciel ouvert, le massacre à la tronçonneuse qu'il opère dans les institutions démocratiques et cette confiance planétaire envers les États-Unis que Donald Trump est en train d'éroder de façon irréversible, tout ce qui préoccupe cette Amérique-là, c'est le prix du gallon d'essence. C'est cela qui guide la marche vers les urnes de cette Amérique qui est satisfaite quand elle peut remplir le réservoir de son VUS à faible prix. Vraiment triste. Écoutez les chaînes de nouvelles américaines et vous aurez l'impression que le gas price est aussi essentiel que l'eau et l'air, tellement on en parle et on le relie aux élections de mi-mandat. L'enjeu est si central que Donald Trump a levé temporairement les sanctions sur le pétrole iranien et celui de la Russie. Ce faisant, il finance à la fois le pays avec lequel il est en guerre et l'autre qui travaille ardemment pour la destruction de l'Amérique. Le pétrole et la mort marchent souvent main dans la main depuis toujours. Je ne parle pas seulement ici des guerres que sa convoitise engendre, ni de la biosphère qui s'étouffe sous les gaz qui émanent de sa combustion. Je veux aussi rappeler qu'au début de ces hydrocarbures, il y a déjà une histoire de mort et d'hécatombe d'êtres vivants marins. Le pétrole naît dans de très vieux cimetières marins, des lieux d'enfouissement rapide où ces défunts, matière organique, soumis à certaines conditions de pression et de chaleur pendant des millions d'années, se transforment en ces hydrocarbures de toutes les convoitises. Malheureusement, encore aujourd'hui, la mort n'est jamais loin de ses réserves énergétiques. Le pétrole, c'est une histoire de zombies qui sortent de terre pour revenir hanter les vivants. J'espère donc que cette crise qui se joue dans le détroit d'Ormuz ramènera le virage vert au cœur des priorités gouvernementales du monde occidental. C'était le culte américain du Gas Prize, un texte de Boucard Diouf, paru le 11 avril 2026 dans la presse.
C'est un méga dépotoir. Quatre solutions pour rendre les rues de Montréal plus propres. Un texte de Geneviève Abran, paru le 16 avril 2026 dans TVA Nouvelles. Seriez-vous prêt à retirer des places de stationnement pour laisser place à des gros conteneurs pour y déposer les ordures? C'est l'une des solutions possibles pour améliorer la propreté de la ville. C'est tellement rendu dégueulasse. Comment vous faites pour vivre comme ça? C'est un méga dépotoir, déplorait récemment un utilisateur de la plateforme Reddit. Son commentaire n'a rien d'exceptionnel. Chaque printemps, les Montréalais se plaignent de la propreté des rues où jonchent les déchets jusque-là cachés par les accumulations de neige. Ensemble Montréal, le parti de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada, a fait de cet enjeu l'un de ses principaux chevaux de bataille lorsqu'il était à l'opposition à l'Hôtel de Ville, puis en campagne électorale et, finalement, depuis son ascension au pouvoir. Si bien qu'en mars dernier, l'administration Martinez-Ferrada a lancé hâtivement son grand ménage de printemps en devançant le déploiement des équipes de nettoyage. Elles travailleront aussi plus longtemps qu'à l'habitude. Au-delà de cette mesure à court terme, qu'est-ce que la ville pourrait faire pour accroître la propreté des rues? Voici quatre solutions possibles. Remplacer les sacs par des bacs. Adieu, sac en plastique. Bonjour, bac plus résistant, suggère le directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal, Fabien Kenzo Sato. Les bordures de rue des secteurs résidentiels s'en porteront bien mieux, croit-il. Ce qu'on recommande, c'est d'avoir une collecte dans des contenants fermés, standardisés, qui vont aussi être pratiques et ergonomiques pour les éboueurs et qui ne vont pas s'ouvrir facilement avec les animaux ou qui ne vont pas se faire déchirer parce qu'il y a une déneigeuse de trottoir qui est passée, ajoute-t-il. À preuve, la méthode porte ses fruits dans l'arrondissement de Saint-Laurent où les bacs noirs sont fournis aux résidents d'immeubles de 8 logements ou moins. Il y a toutefois un bémol à cette solution. Dans les quartiers plus denses, il pourrait ne pas y avoir suffisamment de place pour que chaque logement ait son propre bac, note Fabien Kenzo Sato. Pour les quartiers plus populeux, il propose donc d'implanter des points d'apport volontaires, c'est-à-dire des grands conteneurs où les résidents peuvent y déposer quand ils le souhaitent leurs déchets, s'ils n'ont pas la place pour les entreposer à leur domicile. Il y a plein d'endroits stratégiques qui existent, comme des coins de rue, là où les trottoirs sont plus larges, ou en prenant la place sur une case de stationnement. Ça permet d'avoir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un endroit pour jeter ses déchets, soutient Fabien Kenzo Sato. Les conteneurs peuvent aussi être enterrés ou semi-enterrés. 2. Des poubelles plus grandes. Autre solution à considérer, remplacer les poubelles de taille normale par des conteneurs dans les zones achalandées de lieux publics. Comme pour les points d'apport volontaires, ces conteneurs pourraient être placés à des endroits où les trottoirs sont plus larges, dans des places de stationnement, ou bien aux abords des parcs, où ils sont suffisamment accessibles aux camions-bennes. La mesure est d'ailleurs répandue dans plusieurs grandes villes européennes. Amsterdam, Pays-Bas, Cannes, France, Bilbao, Espagne, et Bergen, Norvège, pour ne nommer que celle-ci. Elle a d'ailleurs failli être implantée à Montréal. Un projet pilote adopté par l'ancienne administration prévoyait d'installer des conteneurs aux sorties du parc La Fontaine pour remplacer les poubelles déjà aménagées qui débordent fréquemment durant l'été. Le projet a toutefois été annulé après une levée de boucliers. Dans les endroits très achalandés où les gens vont prendre beaucoup de repas pour emporter, avoir des pique-niques dans des parcs, vous avez beau mettre plein de petites poubelles, il y a certains jours que ça va déborder, explique M. Sato. Selon lui, les gens peuvent marcher 50 mètres de plus pour jeter leurs déchets. 3. Des poubelles fermées. Remplacer les poubelles dans les parcs et dans les rues par des poubelles fermées empêcherait les animaux et le vent de disperser leur contenu. 4. Enlever toutes les poubelles publiques. Si vous êtes l'un des nombreux Québécois qui ont visité le Japon, vous avez peut-être été surpris par la propreté et l'absence de poubelles dans la majorité des lieux publics. Un tel scénario est-il envisageable à Montréal? Pas à court terme, pense Fabien Kenzo Sato, mais peut-être à plus long terme. Ce n'est pas une démarche qui peut se faire du jour au lendemain. Ça prend un accompagnement plus fort et progressif. On n'a pas encore d'habitude de tri très fine et on n'a pas non plus les mêmes référents culturels depuis que nous sommes tout petits, pense Fabien Kenzo Sato, lui-même d'origine japonaise. Évidemment, il y a une part de responsabilité individuelle, poursuit-il. Et la mairesse Soraya Martinez-Ferrada mise justement sur cette responsabilité individuelle pour améliorer la propreté des rues. Au début du mois d'avril, elle a publié une vidéo dans laquelle elle tient une pancarte indiquant « On doit tous ramasser nos déchets ». La propreté repose avant tout sur les comportements, a indiqué la Ville de Montréal par courriel à 24 heures. Comme ailleurs, Montréal croit à l'implication de la population, notamment à travers des corvées bénévoles, des initiatives communautaires et des partenariats locaux. Mais toujours dans une logique de responsabilité partagée, ajoute-t-on. C'était « C'est un méga dépotoir ». 4 solutions pour rendre les rues de Montréal plus propres. Un texte de Geneviève Abran, paru le 16 avril 2026 dans TVA Nouvelles.